20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
La tutelle me fait beaucoup plus de mal que de bien. Je me sens persécutée et je me sens exclue et seule. Je mérite d'avoir les mêmes droits que tout le monde, d'avoir un enfant, une famille. Je ne mens pas, je veux simplement retrouver ma vie. Ça fait 13 ans et ça suffit.
Le 23 juin dernier, Britney Spears jouait son avenir. La voix assurée, mais la gorge nouée, la star réclame, auprès du tribunal de Los Angeles, la levée du régime de tutelle sous lequel elle vit depuis désormais 13 ans. Une demande qu'elle renouvellera le 27 juillet. Mais tout avait commencé le soir du 16 février 2007. L'Amérique est sous le choc. This is CNN
Breaking News. Retour maintenant sur cette histoire qui enflamme Internet.
Tout le monde est choqué.
Britney Spears est chaude.
Britney Spears, la petite fiancée des Américains, devenue star planétaire aux 60 millions d'albums vendus à travers le monde, se rase les cheveux devant 70 paparazzi. Quelques instants auparavant, vêtue d'un sweatshirt gris et d'un caraco rouge, elle a poussé violemment la porte de ce salon de coiffure de Los Angeles sous le crépitement des flashs des photographes qui la suivent 24 heures sur 24. Esther Tognozzi, gérante du salon, reconnaît la star et refuse de lui raser la tête. Alors que cette dernière s'adresse à l'un des gardes du corps présent, Britney s'empare de la tondeuse et massacre sa longue chevelure brune en défiant les objectifs. Mais dans sa course folle, elle ne s'arrête pas là. Elle s'engouffre ensuite dans le salon de tatouage adjacent et demande à Emily Wayne Hughes de lui faire une croix sur la hanche gauche. Le soir du 16 février 2007 donc, Britney Spears perd pied et disjoncte devant ceux qui la traquent. Une date qui marquera le début d'une descente aux enfers. Premier chapitre d'un roman noir au pays des strass et des paillettes, dans le décor de rêve d'un Hollywood où le moindre faux pas déclenche une meute impitoyable. Un an plus tard, le verdict tombe. Le tribunal de Los Angeles place Britney Spears sous la tutelle de son père, James Spears. À partir de ce jour, sa vie ne lui appartient plus. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Romain Burel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef spécialiste de musique, vous avez également dirigé le magazine Têtu. Alors, on va revenir jusqu'à 21h sur cette histoire incroyable qui dure, je le disais, depuis 13 ans. Et puis sur tous les rebondissements qui ont fait de l'affaire Britney Spears l'une des grandes sagas de l'été. Mais est-ce qu'on peut dire que l'on a assisté, dans une forme d'indifférence générale, je dirais, à une séquestration en toute légalité ?
Ouais, parce que si on se pointe du point de vue de la justice, apparemment c'est tout à fait légal de se dire que depuis 13 ans, une femme n'a pas le droit de gérer sa vie, de gérer son argent, qu'elle doit travailler mais n'a absolument pas le droit de gérer l'argent qu'elle génère. Et elle est encadrée d'une manière qui est quasi... on est quasiment sur un enfermement dans une prison dorée.
Cette fameuse prison dorée, on y reviendra dans un instant. Vous allez nous expliquer ce qui se passe dans la vie de Britney Spears depuis 13 ans. On reviendra aussi sur le parcours hors norme de cette star qui est encore aujourd'hui sous la une des projecteurs, comme on dit. La suite de Jour J, c'est dans un instant.
Jour J avec Flavie Flamand jusqu'à 21h sur RTL.
Nous sommes en 1998 et le monde entier tombe sous le charme d'un titre aussi efficace que révolutionnaire, Baby One More Time. Son interprète s'appelle Britney Spears, collégienne ultra sexy en jupe courte et chaussettes montantes dans un clip tourné au cœur d'un collège américain. Elle porte les couettes mais le décolleté est profond, le regard aguicheur et la chorégraphie chaloupée ne laissent aucun doute. Cette chanson, qui compte la solitude d'une jeune fille après une rupture, n'est que le début d'une carrière qui froissera les esprits puritains et fera baisser les regards les plus timides. Romain Burel, merci d'être notre invité dans Jour J. Vous êtes donc, je le disais, rédacteur en chef spécialiste de musique. Vous avez également dirigé le magazine Têtu. Britney Spears, nous, on la découvre en 1998, mais en fait, les Américains la connaissent depuis toujours.
Ils la connaissent depuis très très longtemps. C'était une des égéries du Mickey Mouse Club.
Elle avait quel âge?
Oh, elle avait entre 8 et 11 ans, je crois, à l'époque. C'est très très jeune. Ses collègues de travail s'appellent Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling, donc on voit, c'est ce qu'on appelle les enfants stars, quoi. Et c'est une industrie aux États-Unis. Très tôt, quand vous avez une gamine qui est un peu douée pour le chant, qui est un peu jolie, les parents se saisissent de ça et se disent voilà, on a potentiellement là une machine à fric, pour dire les choses très clairement. Ouais. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a quelqu'un dans la famille de Britney Spears, son père, qui a très très tôt compris que là, il y avait potentiellement beaucoup, beaucoup d'argent à se faire.
Mais est-ce qu'elle voulait justement devenir une star, cette petite Britney? Elle vient d'où d'ailleurs?
Elle est née dans le Mississippi, elle a grandi en Louisiane, une toute petite bourgade qui s'appelle Kentwood, personne ne connaît, très baptiste, très, on va dire, c'est le coin un peu Bible Belt, conservateur, voilà. Des idées conservatrices qu'on lui reprochera d'ailleurs souvent, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas les bonnes idées progressistes, ça va pas. Voilà, elle vient voilà d'un coin où petite vie paisible de province, très très loin des spotlights. C'est pas quelqu'un qui est très intéressé par le show business au départ. Juste, elle a une voix incroyable. Mmh. Elle commence des télécrochets très 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 vite. Et ses parents se disent bah voilà, en fait, il faut enchaîner cours de danse, cours de chant, avoir le plus beau joli sourire, être potentiellement demain une petite fille qui peut tenir à elle seule une émission de télévision devant des millions d'Américains.
Donc toutes les ambitions de ses parents se fondent sur cette petite fille qui déjà n'a pas une enfance normale. Comment est-ce qu'elle se retrouve à un moment donné à Hollywood, à Los Angeles et au Mickey Club?
Elle
au
fait
Mickey
des concours, c'est probablement sa mère en fait aussi qui a très très envie qu'elle fasse ces concours-là, qu'elle ratera une première fois, puis finalement elle le réussira. C'est des concours où se présentent des dizaines de milliers d'enfants, hein. C'est-à-dire qu'il y a voilà.
Mmh. Se distingue déjà.
Elle a un truc, quoi, quand on la voit tout de suite, elle a une espèce de sourire, elle a quelque chose d'immédiat. J'ai pas envie de dire que c'est la girl next door père parfaite, mais elle a quelque chose d'irrésistible. Finalement, non, nous Français, on va la découvrir avec Baby One More Time, mais en fait aux États-Unis, elle représente quelque chose. Et d'ailleurs, les codes qu'elle reprend dans le clip de Hit Me Baby One More Time sont des codes strictement américains, c'est-à-dire vraiment c'est l'adolescence à l'américaine. Moi je dis souvent que l'adolescence à la française, ça n'existe pas. Que l'adolescence, tous les codes, ils viennent des États-Unis. C'est-à-dire le lycée, elle est dans un lycée, elle est un peu aguicheuse, mais aujourd'hui on voit encore ça dans des séries telles que, je sais pas moi, Love Victor.
Elle a l'uniforme, elle a tout, quoi.
Et elle vient de ce milieu qui est un milieu, pas du tout fait pour le show business. Elle n'a pas les codes au départ, quoi. Mais très vite, il se trouve qu'en fait, il y a des gens qui sont là pour la repérer. On va lui mettre une nounou dans les pattes et on va en faire un produit marketing.
Alors, ce produit marketing, il est là dès le départ. C'est-à-dire, c'est une petite fille qui bosse pour l'industrie Disney, hein, on va dire, qui est connue de tous les Américains. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle bascule et elle devient justement cette star, je dirais, de la pop, qui quand même, à un moment donné, provoque un raz-de-marée. Elle quitte la notoriété des États-Unis pour atteindre, à un moment donné, le firmament d'une notoriété mondiale.
Alors, il y a l'épisode Mickey Mouse Club qui va être énorme et qui va faire qu'elle va être dans le foyer américain chaque semaine, mais on oublie souvent dans sa carrière, c'est qu'il y a 2 ans où elle retourne au bled, passez-moi l'expression, c'est-à-dire que pendant 2 ans, elle retourne à Kentwood, parce que l'émission s'arrête pour elle. Et elle va avoir une vie de jeune américaine
lambda.
Elle va faire de la danse, elle va faire du basket.
Elle le vit bien, ça?
C'est difficile quand même de retourner à une vie entre guillemets normale quand votre vie a été rythmée par les tournages.
Ouais.
Voilà. Alors c'est pas nouveau, hein, le stardom américain chez les enfants, c'est vieux comme Hollywood. Mmh. Voilà. Mais c'est 2 années où en fait où elle va un peu se chercher à avoir une vie à peu près normale. Les gens avec qui elle est en classe savent qui elle est, forcément. Et puis finalement, on se dit, mais le produit, il faudrait quand même pas qu'il s'arrête là. Elle est un petit peu jeune encore, donc on peut encore en tirer quelque chose. Et on décide de lui trouver une chaperonne pour aller à New York draguer les maisons de disques. Commencer à se dire que potentiellement, on peut l'orienter vers le chant. Parce que quand on est de Britney Spears, on peut tout faire. On peut jouer à la comédie. Je vous disais tout à l'heure que parmi ses jeunes camarades, il y avait Ryan Gosling. Il aura un autre dessin.
Qui dansait divinement bien déjà à l'âge de 9 ans.
Exactement. On sait tout faire. Hein. C'est l'acting à l'américaine. Quand on est au plus jeune âge, on vous apprend à faire des claquettes, danser, atteindre...
On peut faire n'importe quelle comédie musicale, quoi.
Exactement. Voilà. Vous êtes un produit et vous savez l'incarner, quoi qu'on vous demande de faire. Et elle va enregistrer quelques démos une face B, un truc retoqué Tony Braxton, mais qui va plus ou moins séduire quelqu'un. Et puis à un moment donné, on se dit, bah d'accord, on va en faire un produit. Il y a cette chanson, Baby, Hit Me Baby One More Time, qui est dans les comment dirais-je, qui est déjà prête. Et puis elle commence une carrière, mais elle commence une carrière d'une manière qui aujourd'hui nous paraît dingue. Quand le single sort, elle fait le tour des supermarchés.
C'est-à-dire qu'elle se produit dans les galeries commerciales. On a l'impression d'ailleurs qu'elle démarre un petit peu étant totalement anonyme. On oublie les années Disney là.
Elle vient, elle se présente et elle se retrouve vraiment dans ce qu'on appelle les malls américains, donc ces gigantesques centres commerciaux où elle fait 3-4 chansons. Et alors là, très vite, ça va briller. Au départ, effectivement, elle vient, elle chante un peu toute seule devant du public qui vient la regarder, qui passe là faire ses courses. Puis en quelques mois, les gens font la queue pour venir voir le phénomène. Et là, il y a un basculement. Et alors quand le clip sort, alors là, c'est juste démentiel. Je rappelle que Baby One More Time est considéré comme un des 100 meilleurs singles de l'histoire de la chanson par le magazine Rolling Stone. C'est un tube inhumain.
On est en 1998, ce premier tube que vous qualifiez d'inhumain qui devient un tube planétaire. Tout le monde connaît désormais Britney Spears et c'est là que sa vie bascule. On a tous le sentiment de la connaître. On la regarde, elle est loin. Et là, les photographes arrivent, bien sûr, et la suivent 24 heures sur 24. Une véritable traque, on va y revenir dans un instant. A tout de suite dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, dans Jour J, on vous raconte l'histoire d'une petite fille que toute l'Amérique connaissait avant qu'on la découvre en 1998, puis après à travers malheureusement sa descente aux enfers. Britney Spears est à la une de Jour J. Romain Burel, vous êtes notre invité. Vous connaissez bien Britney, pas personnellement, mais c'est vrai que vous connaissez toute sa vie. Vous nous l'avez dit il y a un instant, ça fait 13 ans que Britney Spears est sous tutelle après, je dirais, une funeste soirée de 2007. On y reviendra. Mais revenons, si vous le voulez bien, en 98. Sa vie bascule à Britney Spears après des années d'enfant star, mais connue uniquement du public américain. Sa vie bascule, un titre, Baby One More Time, un carton planétaire. Et là, une vie qui change du tout au tout. C'est-à-dire que cette petite fille qui venait du Mississippi, cette jeune fille qui rêvait de notoriété, se retrouve, je dirais, au firmament. C'est-à-dire que sur le papier, c'est une star avec ce qu'il y a de formidable et ce qu'il y a évidemment de terrible. Mais peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte à ce moment-là.
Je pense que c'est difficile de se rendre compte de ce qu'on vit à ce moment-là, d'une part. Elle change l'industrie de la musique. Attention, avant elle, on n'a que des boys bands. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la première fois où on a une artiste féminine toute seule. Alors, il y a des Madonna,
on a Madonna,
etc.
quand même.
Non, bien sûr, mais Madonna, c'est presque, j'ai envie
la
de dire,
génération
une exception
d'avant.
Dans une exception, voire encore avant, c'est les années 80. Là, on est à la fin des années 90. Ce qui cartonne à la radio, c'est les Boys to Men. Voilà, donc là, on a une jeune fille toute seule qui arrive à tenir les charts et qui se hisse au plus haut firmament des charts. C'est déjà en soi un exploit. Elle attire le regard, mais d'une manière dingue. Pourquoi ? On pourrait en parler longuement. Vous savez, le public qu'on a à cet âge-là, souvent, il est plus jeune que vous. Donc Britney Spears, elle a 17-18 ans, elle plaît aux gamines de 13 ans en fait. Mmh. C'est ça son public, qui a envie d'être comme elle.
D'ailleurs, elle leur ressemble un petit peu aussi. D'un point de vue marketing, on dirait une jeune fille qui aurait grandi un peu trop vite.
Exactement. Et le coup de génie qu'il y a quand même derrière, c'est de se dire que pour se débarrasser de cette image de Disney girl, elle va miser d'abord assez gentiment, mais assez clairement, sur une sexualisation de son image, parce que sinon vous restez piégé dans une image de petite fille sage un peu lisse à la Disney, comme Disney fait des produits comme ça à longueur d'année, donc. Et ça commence par Hit Me Baby One More Time, c'est Crazy plus tard, jusqu'à un apogée de sexiness, j'ai envie de dire, avec Slave For You, où là elle porte carrément un string par-dessus son jeans, etc. Et ça va être un de ces moteurs d'une construction d'un personnage. C'est un personnage qui revendique sa sexualité. On est au tournant des années 2000. Elle va faire des émules. Elle va faire même des émules en France. Moi, faut se rappeler qu'en 2000 sort le single d'une jeune française. La chanson est écrite par une certaine Mylène Farmer, Alizée.
Lolita.
Exactement. Mmh. C'est une version française de Britney Spears. En fait, on a trouvé un filon là. Et alors maintenant, toutes les maisons de disques du monde veulent leur Britney Spears.
Voilà, Britney Spears devient donc le sort de maître étalon de la chanteuse à succès donc à ce moment-là. Est-ce qu'elle, si elle revendique cette image, si elle revendique cette hypersexualisation, est-ce que ça vient véritablement d'elle ou est-ce que c'est déjà son entourage qui, dans la lignée finalement de tout ce qui a toujours été fait autour d'elle, la manipule, je dirais, et poursuit son œuvre de marketing?
Moi, ce que j'en crois, c'est que, bon, d'abord, vous n'arrivez pas à ce niveau sans talent. C'est une soprano incroyable, c'est une danseuse géniale, c'est une danseuse qui est capable d'écrire ses propres chorégraphies, etc. Elle a un talent indéniable, d'une part. De deux, par contre, vous êtes entouré par des centaines de personnes qui décident à votre place, mais à peu près à tous les niveaux.
Déjà.
Toutes les stars vous en parlent. Madonna explique très très bien à quel point elle a dû se battre contre les hommes, etc. Mais encore récemment, une star française comme Christine and the Queens racontait au moment de la sortie de son deuxième album à quel point elle a dû batailler pour imposer un point de vue artistique sur sa propre carrière. Donc, je le dis clairement, j'ai rencontré je ne sais pas combien de centaines d'artistes, mais vraiment, en général, quand vous parlez avec les femmes, elles ont beaucoup moins de contrôle sur leur carrière artistique. Donc déjà, d'une part, ce chemin-là, quelqu'un y a réfléchi pour elle. Est-ce qu'elle a vraiment envie de le prendre? Certainement au départ, et sûrement qu'elle a dû prendre un minimum de plaisir au départ.
Elle prend ce qu'il y a à prendre. Elle est populaire, elle est connue, elle a atteint son but.
C'est hyper soudain. C'est-à-dire que vraiment, vous passez de... On ne vous connaît quasiment pas à une superstar, et on va sûrement en parler beaucoup après, parce que c'est quand même une immense partie de sa vie, mais des milliers, des centaines de paparazzi qui vous courent après... H24.
Alors, sa vie, donc, lui échappe déjà. Si sa carrière lui échappe, sa vie lui échappe aussi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle se retrouve traquée par les photographes. On voit des images parfois de sa sortie de chez elle avec... On ne la distingue même pas tellement il y a des crépitements de flash. Et sa vie privée lui échappe complètement. C'est-à-dire que Britney Spears, à partir de ce moment-là, ne vit plus comme une femme normale.
Mais c'est le deal. Hollywood exige ça. Hollywood, depuis la nuit des temps, est construite comme étant une usine de représentation où la représentation est permanente. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous, vous devez les choses aux photographes qui sont en bas de chez vous. Parfois, vous composez avec eux.
Voilà, donc il y a une relation. Elle les connaît, elle leur parle.
Certains, il y a un excellent documentaire qui est sorti, dont on ne peut pas faire l'économie de parler, qui s'appelle Framing Britney Spears, donc Piéger Britney Spears.
Du New York Times.
Du New York Times et de HBO. Et il y a un ancien paparazzi qui a beaucoup traqué Britney Spears, qui parle dedans, qui explique à quel point c'est un business excessivement juteux. C'est-à-dire qu'à l'orée des années 2000, une photo de Britney Spears volée, ça vaut $1 million. C'est une somme faramineuse.
Donc comment résister à $1 million?
Et effectivement, mais vous avez un peu besoin aussi en tant qu'artiste d'avoir des aspérités. Et
c'est du donnant-donnant, quoi.
C'est un peu, effectivement... En tout cas, à ce stade, au départ, du donnant-donnant.
Britney Spears, un jour, connaît l'amour, évidemment sous le feu des projecteurs. Ses histoires d'amour n'échappent à personne. Elle rencontre un jeune chanteur qui s'appelle Justin Timberlake. Et on va dire aussi que ça marque l'un des tournants, je dirais, quelque part de sa carrière et de son image. On en parle dans un instant dans Jour J. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand.
On parle de la vie de Britney Spears ce soir dans Jour J et on a le sentiment, Romain Burel, qu'elle n'a pas eu qu'une vie, Britney Spears. Elle en a eu plusieurs, de la petite fille du Mississippi à la petite fille star, l'enfant star chez Mickey Mouse et enfin cette artiste qui révolutionne justement l'image de la chanteuse pop des années 2000, du début des années 2000, à l'heure où il n'y avait que de la testostérone, messieurs, dames, que des boys bands qui était là, et arrive une Britney Spears hyper sexualisée qui casse complètement son image. Vous nous l'avez dit, c'était à la fois volontaire, mais en même temps, elle était déjà, je dirais, sous l'emprise d'un environnement professionnel qui décidait déjà de sa carrière. Et puis sa vie, oui ?
On appelle ça le management aux États-Unis.
Le management aux États-Unis. Mais ça, c'est vu du côté des États-Unis. Mais maintenant, a posteriori, on se rend compte quand même, dans son histoire dramatique, que cette jeune femme n'a jamais eu de vie réellement à elle. On y reviendra parce qu'aujourd'hui, c'est le cœur de, de son combat, c'est qu'elle veut sortir de la tutelle qu'on lui a imposée en 2008, la tutelle de son père. Toujours est-il que Romain Burel, je le disais il y a un instant, c'est une star, les paparazzi la suivent absolument partout, c'est du donnant-donnant, une photo volée d'elle vaut $1 million, donc cette jeune femme rapporte énormément d'argent, elle en gagne aussi, et puis ses amours ne passent pas inaperçus. Je vous disais, Justin Timberlake, elle l'a rencontré, mais non, en fait, elle le connaissait depuis très longtemps.
Bah oui, ils étaient collègues de travail à l'époque du... c'était des mousquetaires, comme on disait dans, dans l'émission.
Il était lui-même enfant star.
Exactement. Et puis, c'est le début d'une idylle. Bon, les États-Unis sont un pays étrange parce qu'ils n'ont pas de famille royale comparée au pays comme l'Angleterre. Donc, quand vous avez un couple comme Justin Timberlake et Britney Spears, autant vous dire que vous avez l'équivalent de Meghan Markle et du prince Harry aujourd'hui. C'est, ouais, c'est vraiment de ce niveau de notoriété. C'est la poule aux œufs d'or, vous les traquez dans tous les sens. Mais quand je dis que vous les traquez, c'est-à-dire qu'en fait, de la paire de chaussures jusqu'au bout des cheveux, jusqu'à savoir qu'est-ce qu'ils font, quelle soirée ensemble, qu'est-ce qui, les gens qu'ils fréquentent, etc. Et là, très honnêtement, vous n'avez plus de vie privée. Mmh. Et en plus, vous jouez le jeu de la vie privée.
Votre vie privée est scénarisée, quoi, aussi.
Évidemment. Mmh. Et ça, c'est, encore une fois, c'est vieux depuis les années 50. Hein. On maîtrise la vie privée des stars. On le sait depuis très longtemps. Les studios américains choisissaient des girlfriends à certains acteurs qui parfois étaient d'ailleurs homosexuels, mais histoire de donner le change, etc.
Donc là, mais ils étaient vraiment amoureux ?
Justin Timberlake et Britney Spears. Alors moi, je suis pas dans le secret de leur alcôve, mais en tout cas, oui, je pense qu'ils ont vraiment une idylle ensemble et qu'ils étaient vraiment dans quelque chose qui est très court. On parle de 3 années de vie commune. Leur histoire, par contre, aussi heureux et heureuse pouvait-il être, elle va se terminer assez vite. Et il y a quelqu'un qui va donner très vite le là et qui va expliquer très vite ce qu'il pense de cette histoire d'amour. C'est Justin Timberlake. Il va pas laisser l'occasion à Britney Spears de potentiellement donner sa version des faits.
Au moment de la rupture.
Ouais. D'ailleurs, excusez-moi, mais est-ce qu'on doit des choses aux gens, qu'on se sépare de gens? Moi, je pense que non.
Non.
D'une part. Et là, en fait, lui va le faire par un clip interposé. La chanson est un tube interplanétaire qui s'appelle Cry Me a River. Et dans le clip, il règle ses comptes avec Britney Spears. Et il la traite pas littéralement de salope, mais l'image qu'il lui donne dans le clip, pardonnez-moi l'expression, c'est vraiment celle-là, quoi. À un moment donné, il y a un sosie de Britney Spears qui apparaît, il y a des photos d'elle et de lui qui volent en éclats, et il lui donne le rôle attitré de la méchante, en fait, de celle qui a brisé le couple et qui n'a pas été fidèle.
Est-ce que le public suit ?
Le public suit comme un seul homme parce que d'abord, c'est le premier à parler. Et clairement, moi je pense qu'aujourd'hui, on se poserait plus de questions parce qu'on commence à écouter la parole des femmes. Je ne dirais pas qu'on écoute qu'elles, hein, vraiment, ouais, et qu'on les écoute correctement encore, mais on commence à le faire. À l'époque, le premier qui a parlé a raison, et alors si c'est un homme, c'est que forcément il a raison.
Donc Britney Spears, qui était cette jeune femme que tout le monde adorait, qui était un petit peu, même si elle était une star, qui avait l'image de la girl next door, hein, la fille qu'on pouvait rencontrer, qui était toujours accessible et tout, devient donc véritablement une...
Ouais, et puis
on va le dire, une salope qui a quitté Justin Timberlake.
Et elle paye l'image de s'être construite à travers une libération sexuelle, en
bien
fait.
Sûr.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, elle s'est servie de sa sexualité. Mais c'est pas la première, encore une fois. Je veux dire, Madonna a écrit les tables de la loi de ça, c'est-à-dire de se servir de sa féminité, de la revendiquer en disant je suis une jeune femme, j'assume ma vie et ma sexualité. Et là, c'est ça qu'elle paye, en fait, et elle va le payer sonnant et trébuchant. On ne l'écoute pas, personne ne s'intéresse à sa version des faits. Dans des émissions de télévision, on lui reproche littéralement en interview d'avoir quitté et d'avoir été infidèle à Justin Timberlake. Je ne sais pas si vous imaginez de devoir vous justifier d'une rupture, quand déjà vous vivez potentiellement mal ce qui vous arrive. On vous pose des questions, mais d'une intimité, mais est-ce que tu es encore vierge? Enfin, on lui pose des questions comme ça à la télévision.
Donc ça en dit long quand même sur la familiarité, je dirais presque l'ingérence aussi des journalistes.
L'indécence.
Dans la vie de cette jeune femme, qu'on ne pose pas donc à Justin Timberlake. Ou si tant est qu'on lui en parle, lui il répond allègrement pour mieux la descendre. C'est ça aussi l'idée.
Non, et puis
ça arrive parfois hein, dans les séparations publiques. Hein.
Ouais. Bon, c'est un sujet... j'ai envie de dire tristement commun et qui peut aussi arriver en France, et on connaît des séparations où ça peut se passer comme ça.
C'est vrai. Et alors justement, est-ce qu'elle refait sa vie après ? Est-ce que sa vie bascule avec une image donc qui n'est plus du tout la même, ou est-ce que les gens finissent à un moment donné par lui pardonner ?
Non, on lui pardonne pas.
On lui a jamais pardonné.
C'est la jeune fille qui a brisé le couple chéri de l'Amérique.
D'accord.
Donc clairement, en fait, elle est fautive. Quoi qu'elle fasse après, de toute façon, elle aura tort. Elle écrit une chanson qui s'appelle Every Time, où elle essaie de répondre tant bien que mal. Elle parle de son mal-être. D'ailleurs, j'ai envie de dire que si on se penche un peu, les fans le savent mieux que moi, je veux dire, les savent que à travers certaines chansons, elle a essayé de s'expliquer et de donner sa version des faits, parce qu'elle voyait bien qu'en interview, personne n'avait envie de l'écouter.
Britney Spears, donc une jeune artiste incomprise qui n'a jamais réussi à s'expliquer, vous le dites si bien, qui s'explique encore aujourd'hui ou qui cherche à être entendue dans son combat qui est le sien. On y revient dans un instant dans Jour J.
Jour J.
On parle de Britney Spears, vous le savez, ce soir dans Jour J. Britney Spears, Romain Burel, dont le cœur a battu plus fort pour certains hommes. Justin Timberlake, vous nous l'avez expliqué, et l'injustice d'une séparation sur laquelle elle n'a jamais pu véritablement s'exprimer. Elle a aussi épousé un ami pendant 55 heures, c'est ça ? Je crois que c'est un mariage super court.
Alors qu'il a été annulé, donc voilà. Les erreurs, on en fait tous.
Mais on en fait tous, mais est-ce que ça n'est pas le signe déjà d'une jeune femme un peu perdue qui a besoin d'avoir un point de repère dans sa vie, quoi.
Moi, j'ai eu plein de séances de pétage de plomb dans ma vie. Heureusement que j'étais pas sous l'œil des paparazzi pour
mais
pas
c'est
que ça se voit.
Oui, c'est ça
je
qui est
pense
terrible.
Qu'en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est tristement banal, en fait. On a tous des moments, en fait, où on va plus ou moins bien.
Mais est-ce que ça ne voulait pas dire qu'elle cherchait quelque chose de stable dans sa vie à un moment donné, en se mariant ? On y croit. Enfin, je veux dire, quand on a l'impression que tout nous échappe, on se dit que peut-être, à un moment donné, du côté du sentiment, on va trouver quelque chose qui va nous poser.
Qu'elle a touché du bout des doigts. Je veux dire, elle a été mariée à un danseur à elle qui s'appelait Kevin Federlein. Ils ont eu deux beaux enfants ensemble, mais même là, parce qu'elle grandit encore sous l'œil des paparazzis, on considère que c'est pas une bonne mère.
Pourquoi ?
Oh bah, à chaque fois on a des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'un jour on lui reproche de conduire avec son gamin sur les genoux, une autre fois en fait elle sort d'une voiture, elle reçoit des milliers de flashs dans le visage, elle manque de tomber parce qu'elle a un de ses gamins dans les gosses, mais moi déjà là il y a quelques lumières dans le studio, je vais pas dire que je suis aveugle parce que je suis en mode taupe, mais je vois pas très très clair. Imaginez ce que ça peut être, vous vivez comme ça sous l'œil.
En fait, il faut toujours se méfier d'une image arrêtée. Hein.
Ouais, exactement. Et la vie de le meilleur parallèle qu'on peut donner, pour moi, la vie de Britney Spears à ce moment-là, c'est The Truman Show, quoi, en fait. Vous vivez 24 heures sur 24 dans une télé-réalité.
Eh ben, les paparazzi, elle en parle, Britney. Elle essaye un jour d'exprimer son sentiment et, j'irai quelque part, son désespoir. Vous allez l'écouter, on dirait presque une supplication pour la paix.
Que faudrait-il, d'après vous, pour que les paparazzi vous laissent tranquille ?
Je sais pas. Je ne sais pas.
Est-ce que c'est l'un de tes plus grands souhaits ?
Oui. J'aimerais qu'ils me laissent tranquille.
Si tu pouvais leur parler individuellement et pas en tant que groupe, que leur dirais-tu ?
Je dirais juste que tu as des enfants à la maison, tu as une femme. Et si tu n'en as pas, tu dois prendre conscience que nous sommes des êtres humains. Nous avons juste besoin d'intimité, de respect et de toutes ces choses auxquelles on a droit en tant qu'être humain.
Certaines personnes ont du mal à comprendre. Les paparazzi te rendent si malheureuse. Comment arrives-tu à dire « j'ai de la chance » ?
Parce que je crois que je suis ici pour une raison.
Pour quelle raison ?
Je ne sais pas. Je continue de chercher tous les jours, comme vous. Mais je suis si heureuse avec mon bébé. C'est la chose la plus heureuse qui... C'est comme un miracle. Mais je veux juste une vie la plus normale possible qui soit, pour lui. C'est tout.
Est-ce que c'est possible ?
Je me débrouillerai, je ferai en sorte que ce soit possible.
Des clôtures plus hautes, des portes plus grandes, comment allez-vous faire, Britney ?
Il y a toujours un moyen. Tant qu'il y a de la volonté, il y a moyen.
Moi, ça me fend le cœur. Mais sincèrement, quand j'entends ça, quand j'entends cette femme, je parle d'une supplication, mais c'est vraiment ça. Et en fait, on a le sentiment qu'elle est dans une machine, elle est dans un système, et qu'en sortir est quelque chose d'impossible, alors qu'elle ne demande qu'une chose, véritablement.
C'est d'avoir c'est la paix.
C'est la paix, quoi.
D'être capable de jouer son rôle de mère. Mmh. Enfin, ce qui est un moment important dans la vie quand on est parent, et on lui prive de ça, et on entend aussi une femme qui ne voit pas comment elle peut s'en sortir.
C'est ça, c'est une impasse. Et c'est vrai qu'on se dit aussi que l'opinion publique, quand elle est négative, et les photographes, tout ça réuni, c'est une meute. Ça a des allures de trac. La vie de Britney était une forme de trac aussi.
Ouais, et je trouve que il y a une chanson d'elle où elle en parle, hein, qui s'appelle Pieces of Me, où elle dit, vous voulez tous un petit morceau de moi. Faut pas négliger le rôle des fans. Hein. Moi qui adore Britney Spears, je pense qu'on l'a tous collectivement laissé tomber.
Ça, c'était un an avant cette fameuse funeste soirée de 2007, le 16 février 2007, où Britney, donc, je vous le disais en début d'émission, débarque suivie par 70 paparazzi chez un coiffeur et se rase elle-même la tête. Ça, ce sont des signes, un précurseur, je dirais, d'un pétage de câble qui a eu lieu après. Est-ce que l'on sait à un moment donné ce qui s'est passé ce soir-là ?
Ah ben non, parce qu'on n'est pas dans sa tête. Enfin, moi, c'est quelque chose que... Moi, ce que je sais, c'est ce que j'en ai vu. J'ai vu une femme qui, si je peux l'interpréter moi, j'ai vu une femme reprendre le contrôle de sa féminité.
Ce soir-là.
Ouais, j'ai vu une femme décider. Alors en plus, avec le recul, à l'époque, on s'est tous bien moqué d'elle. On se rappelle la vidéo de... à l'époque, c'était un jeune garçon qui s'appelait Chris Crocker. Je crois une des premières vidéos qui est devenue virale où il disait « Leave Britney alone ». On s'est tous moqué aussi de cette vidéo. À l'époque, il y a eu un incalculable de blagues faites sur le fait de péter les plombs, de se raser les cheveux, etc. Se raser les cheveux, on peut avoir... Il y a plein de significations. Dans la culture bouddhiste, par exemple, c'est un signe de renouveau. Elle dit, je ne veux, elle répétait cette phrase selon les témoins de l'époque en disant, je ne veux plus qu'on me touche.
Plus jamais, qui que ce soit, je n'en peux plus de toutes ces personnes qui touchent mes cheveux. Ce qui en dit long sur l'objetisation, finalement, des stars.
Ouais, et quand on veut plus de ça, on n'a plus beaucoup de solutions. Et l'ultime solution, c'est de se dire, potentiellement, je vais me raser les cheveux. Vous débarquez dans un salon de coiffure et la personne vous reconnaît et vous dit, je veux pas le faire.
Oui, mais en fait, elle casse son image ce soir-là.
Exactement.
Elle se rend impopulaire, elle se rend moins désirable, elle fait en sorte de ne plus attirer le regard.
Ouais, elle sort peut-être d'une certaine féminité qu'on lui plaque depuis trop longtemps sur le dos.
Une semaine après ou quelques semaines après, elle veut aller voir ses enfants parce qu'elle est séparée de son mari Kevin Federline et elle n'arrive pas à aller voir, elle est avec sa cousine, elles sont dans une station service du côté de Los Angeles. Elle sort de sa voiture, sa cousine là essaye à un moment donné de la retenir, elle se dirige vers un photographe
qui l'a bien chauffé avec plein de questions bien insidieuses sur sa vie privée.
Ouais.
Qui la provoque, il lui demande où elle va, parce que je m'inquiète pour toi, t'as pas l'air bien Britney, etc. Et en fait,
elle s'empare à un moment donné d'un parapluie.
Et là, c'est cette image qui va se retrouver, mais qui va faire le tour du monde, du Sun jusque dans
où elle insulte.
Où elle l'insulte et où elle a un visage. Clairement, c'est une femme en colère qui essaie de se battre pour son bien-être. C'est une femme qui veut juste voir ses enfants. Enfin, moi, je pense qu'on devrait tous être capables de se relier à ça et de se dire, voilà, elle n'arrive pas à le voir. Je pense vraiment que ses enfants, c'est tout pour elle. Et j'en parle avec presque un trémolo dans la voix quand j'y repense. Et elle n'a pas le droit, quoi, concrètement.
Et ça, je dirais quelque part que ce soir-là, cette agression, d'ailleurs on voit les photographes qui montrent à un moment donné son dos parce qu'il aurait reçu un coup de parapluie. Enfin bon, on est du côté des photographes, on n'est pas du côté, je dirais, de la victime de cet instant qu'est Britney Spears. Et c'est là que sa vie bascule. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va décider, donc à un moment donné, que son état mental n'est plus sain et qu'elle doit être placée sous tutelle.
Sous tutelle, exactement.
La vie de Britney Spears sous tutelle, c'est tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand
jusqu'à 21h sur RTL.
Romain Burel, on vient d'entendre depuis maintenant 20h l'histoire de Britney Spears. Évidemment, il y a plein de choses qu'on n'aura pas pu évoquer, mais on ne peut pas s'empêcher au moment où l'on se parle de se dire que cette femme a été victime d'un système, victime de la violence inouïe de la notoriété et d'un Hollywood impitoyable, victime d'une meute qui, dès lors où elle sent que ça saigne quelque part, va retrousser les babines, je dirais, et faire sortir les crocs. Et cette femme, à un moment donné, qui est victime d'une traque. Elle disjoncte en 2007. Et à partir du moment, je pense, où on est une personnalité, où on a le sentiment que tout nous échappe, on finit par perdre pied complètement. Est-ce qu'elle a, à un moment donné aussi, été diminuée psychologiquement? Est-ce que vous pensez que cette mise sous tutelle était justifiée à ce moment-là?
Je ne sais pas. Je pense qu'on perd tous pied à un moment donné dans nos vies.
C'est vrai.
Que c'est mettre un genou par terre.
Mais on n'a pas tous le monde qui nous regarde.
Exactement, d'une part. Mais mettre un genou par terre, c'est, j'ai envie de dire, c'est la définition de l'humanité. Le tout, c'est de pouvoir se relever. C'est difficile de se relever devant le regard de tout le monde.
Bien sûr.
Il y a une décision de la mettre sous tutelle, c'est-à-dire de gérer sa vie, son argent, de manière pécuniaire, mais aussi beaucoup plus que simplement son compte en banque. Hein. C'est sa prise de médicaments, c'est le nombre de personnes qui sont chez elle. Elle parle dans le statement qu'elle a donné récemment au tribunal, elle parle de jusqu'à 6 infirmières qui l'encadrent. Chaque moment de sa vie, j'ai presque envie de dire jusqu'au moment où elle a le droit d'aller pisser, sont pris en compte et elle n'a pas beaucoup de temps pour respirer et pour être elle-même. Hein.
Que faisait son père avant ?
C'était un homme qui vient d'un milieu ouvrier, qui a eu plusieurs boulots dans sa vie, qui a essayé de monter une salle de gym, ça n'a pas marché. C'est quelqu'un qui très tôt a investi sur Britney Spears.
Forcé un peu sur la boisson ?
Oui, il a eu des problèmes d'alcoolisme. Voilà, concrètement, le grand travail de sa vie, ça sera de gérer la carrière de sa fille.
Oui, mais alors est-ce que ça vous semble normal que ce soit lui qui ait justement obtenu la tutelle de sa fille, puisque aujourd'hui, elle a demandé, au mois de juin de cette année, à ce que son père, en tout cas, ne soit plus son tuteur.
Si vous me demandez si c'est normal, je vais vous répondre. La réponse, elle est claire, c'est absolument non. Moi, j'estime qu'en plus, je préférais que d'autres personnes potentiellement le fassent, que ce ne soit pas forcément des personnes de sa famille. Je pense même que c'est une grande fille qui a 39 ans. Après 2 enfants, on peut encore s'occuper de sa vie. Que si jamais elle a des problèmes d'ordre mentaux, on commence à avoir un début de conversation aujourd'hui sur ce que c'est que la santé mentale. Mmh. J'ai envie de dire que c'est pas la seule, qu'on est très nombreux et nombreuses à potentiellement avoir ce genre de choses et que je lui souhaite d'être accompagnée et certainement pas séquestrée et encadrée comme sa vie est aujourd'hui.
Il faut bien préciser que si sa vie privée lui échappe complètement aujourd'hui, donc vous nous le disiez, des infirmières, des rendez-vous réguliers chez le psy. Donc
3 par semaine. On lui impose 2 psychanalyses et 1 psychiatre par semaine. Vous imaginez un peu le nombre
Ça me semble être le contraire d'un accompagnement.
Quelque chose de sain,
exactement. Sa vie, ses fréquentations, son téléphone, elle a continué à travailler. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ces 13 dernières années, elle a continué à se produire sur scène.
À se produire sur scène, à être une machine à Las Vegas, qui est probablement la chose la plus difficile dans ce métier, c'est-à-dire que tous les soirs, vous êtes en représentation dans un show gargantuesque. Elle a continué à faire des albums, elle a continué à faire des tournées. Je vais dire avec un fusil dans le dos, parce que j'ai pas d'autre mot, parce qu'on l'a obligée à faire des tournées qu'elle ne voulait pas faire. Ses fans, de facto, ont jugé certaines tournées comme étant décevantes. Moi, je me rappelle de certaines tournées, effectivement, qui n'étaient pas au rendez-vous. On a vu une pas très bonne danseuse, machin. Mais parce qu'elle n'a pas envie de le faire. Mais il faut le faire. On l'oblige à le faire. Elle est C'est une poule aux œufs d'or.
C'est une esclave aujourd'hui, quelque part, d'un système.
Ouais, clairement. Et en fait, cette poule aux œufs d'or, il est hors de question qu'elle arrête de pondre.
Alors, son mal-être a été quand même perçu par certains. Et si ça a été risible au départ, le mouvement Free Britney est devenu un mouvement beaucoup plus légitime aujourd'hui.
Ça commence c'est marrant comme histoire, je sais pas si c'est le mot marrant, mais en 2009, il y a quelqu'un qui dépose l'adresse freebritney.org. Et de là va naître, en fait, avec cette prise de conscience sur cette tutelle, etc., que peut-être, elle mériterait d'avoir le contrôle sur sa propre vie. Et il y a plein de gens, notamment aux États-Unis, qui vont s'organiser, qui vont, c'est un hashtag sur les réseaux sociaux, pour dire, voilà, maintenant, il faut libérer Britney. C'est risible au départ, on on s'en moque beaucoup. Hein. La presse se dit, voilà, c'est quoi ces illuminés, etc. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, des stars, même très connues, disent, j'ai vécu la même chose. Je suis des femmes, hein, toujours, hein, on va pas se mentir, c'est rarement des hommes à qui on, qui perdent le contrôle de leur vie à ce point. Mais j'ai vécu la même chose. On a voulu faire de moi la même poule aux œufs d'or. On a voulu faire de moi cette machine à cash. On a voulu prendre le contrôle, me faire perdre le contrôle sur ma vie, mes fréquentations, ce que je peux faire ou ne pas faire de mon argent, qui ou quelle personne avec qui je peux sortir, avec qui je dois m'afficher, c'est quand même absolument dingue.
Alors, en même temps, c'est une tutelle, Romain Burel, que conteste Britney Spears aujourd'hui et depuis évidemment plusieurs mois. L'été, il a été très riche en événements. Que s'est-il passé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
En fait, sa demande de rejet de tutelle a été refusée dans un premier temps et le 27 juillet dernier, elle a refait une requête auprès du tribunal de Los Angeles.
Donc elle a insisté.
Elle a insisté en disant non, maintenant qu'elle a enfin son propre avocat et qu'elle a pu choisir elle-même, donc elle a essayé de faire valoir ses droits, ce qui lui ont été d'abord refusés. Mais le coup de théâtre de l'été surtout, c'est que le 12 août dernier, auprès du tribunal de Los Angeles toujours, les avocats du père de Britney Spears, cette fois, ont accepté de renoncer à la tutelle. On dit qu'ils étaient d'accord, cette fois, de renoncer à la tutelle en disant que voilà, ils avaient entendu, entre guillemets, la campagne acharnée contre le père de Britney Spears et que donc, il y aurait potentiellement une fin heureuse. Une fin heureuse parce que d'ailleurs, l'avocat de Britney Spears s'est empressé de saluer en disant que justice avait été faite. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tutelle après pour Britney Spears.
Voilà, parce que tout n'est pas gagné en fait pour Britney Spears. Il y a le cas de son père, Jimmy Spears, et il y a le cas de la tutelle en règle générale.
Alors, d'une part, parce qu'elle va sûrement avoir un autre tuteur ou tutrice, elle a actuellement une tutrice d'ailleurs, qui va être sûrement désignée, d'une part, et puis de deux, il y a 13 ans de gestion d'un patrimoine assez important, sur lequel probablement l'avocat de Britney Spears va commencer à enquêter, c'est ce qu'il a d'ailleurs dit, je crois, à une déclaration du New York Times qu'on a pu lire cette semaine, pour voir est-ce que son patrimoine a été bien géré pendant ces 13 dernières années.
Et alors là, selon vous, est-ce qu'il va y avoir des découvertes dans les semaines, dans les mois qui viennent, maintenant qu'un nouvel avocat a été nommé?
On ne peut pas savoir. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est déjà qu'elle se remette. Elle a communiqué là récemment sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle était topless dans un post Instagram et elle a bien le droit de le faire, en disant qu'elle avait envie de se montrer nue parce que justement, elle avait l'impression que ces dernières années, elle portait tout le poids du monde sur ses épaules. Moi, ce que je lui souhaite, c'est de ne plus porter tout le poids du monde, de se libérer, d'être une femme heureuse d'abord. La question de sa carrière se pose, son petit ami était interrogé par un site pas très fréquentable, j'ai pas envie de le citer, un site américain très people, en disant ce qu'elle va remonter sur scène, lui a dit absolument mon pote, je t'assure, elle va remonter sur scène.
Bon, voilà. Donc qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous sous-entendez effectivement qu'elle peut remonter sur scène, mais que tout le monde peut trouver aussi, évidemment, j'imagine, un profit à ce qu'elle poursuive sa carrière.
Ouais, alors j'espère...
Est-ce qu'elle va pouvoir la poursuivre librement? C'est ça la question.
C'est ça, et à commencer par elle, c'est-à-dire est-ce qu'elle a envie aussi? C'est la question que se pose son dernier manager en date, disait en 2019 que selon lui, elle voulait se mettre en retrait de sa vie publique. On la voit toujours aussi présente sur Instagram, donc finalement moi c'est probablement le fan qui parle là, mais qui dit que je pense qu'en fait elle a encore envie de revenir auprès de ses fans, d'ailleurs qu'elle remercie dans ce post, elle parle du mouvement Free Britney.
Alors ce mouvement Free Britney, pardon je vous interromps, mais c'est vrai qu'elle a effectivement salué ce mouvement dernièrement sur Instagram en disant selon elle que c'est ce qui lui a permis de recouvrer des forces dans la bataille judiciaire. Est-ce que vous pensez que justement la pression médiatique de ce mouvement qui a été créé par des fans pour libérer Britney, c'est ça, hein, hashtag Free Britney, a pesé dans la balance judiciaire.
J'ai la sensation que c'est ce qu'on laisse entendre les documents qu'ont rempli les avocats du père de Britney Spears auprès du tribunal. Et quand il parle de campagne acharnée, j'ai l'impression qu'il parle du mouvement Free Britney. Donc quand elle les remercie, d'abord je crois qu'elle a fait rarement en fait allusion à ce mouvement. Je crois même de mémoire que c'est la première fois qu'elle en parle aussi ouvertement, qu'elle remercie aussi ouvertement. Donc je pense qu'en fait, on est tous conscients que ça a joué un rôle prépondérant. Je sais qu'on parle d'une femme qui est très très riche, qui a l'air d'être lointaine et de vivre une espèce de peut-être prison dorée pour plein de gens, mais en France, la tutelle et la curatelle, c'est 800 000 personnes aussi. Et il y a aussi des abus et des dérives en France. Donc mine de rien, cette histoire qui est très lointaine, très hollywoodienne, elle nous concerne aussi ici en France.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation,
vous,
Romain
David.
Burel. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef, spécialiste de musique et que vous avez également dirigé le magazine Têtu et que vous connaissez bien cette fameuse Britney. Merci beaucoup. Nous étions le 16 février 2007 avec Britney Spears. Merci de nous avoir suivis et à demain soir, 20h, pour un nouveau jour J sur RTL.